Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
C'est confirmé. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs se tient demain vendredi dans 14 provinces. Toutes les dispositions sont prises, y compris sécuritaires, pour la bonne tenue de ces élections. D'après les rapporteurs de la CENI, le code de bonne conduite a été rappelé à tous les candidats. Aucun nouveau cas de la maladie à virus Ebola notifié depuis le 1er mai à l'Équateur en proie à la 14e épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite hier par le chargé de bureau de l'OMS en RDC au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Enfin, notre invité dans cette édition est Nathalie Mbumba Nzunzi, expert en finances publiques, magistrat financier de la Cour des comptes et auteur. Il s'exprime sur son ouvrage intitulé « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre » publié en 3 tomes. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La Commission électorale nationale indépendante confirme pour ce vendredi 6 mai 2022 les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées. Selon les rapporteurs de la centrale électorale, pour s'assurer de la bonne tenue de ce scrutin, la CENI a eu notamment à rappeler le code de bonne conduite à tous les candidats et toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Maître Patricien Seya, qui s'intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais, animée par Kelly Kouté, a aussi précisé que la machine à voter sera utilisée. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Oui, la machine à voter sera utilisée. Et d'ailleurs, nos équipes qui ont été déployées, ils sont descendus avec les machines à voter. Les bulletins aussi, je dois compléter, les bulletins de vote, parce que les équipes ou les membres de la plénière qui ont été déployés dernièrement, quand ils sont arrivés dans les différentes provinces, ils ont eu à contacter les présidents des assemblées provinciales qui ont remis à main propre, comme moi le cas de Kisangani, le président de l'assemblée provinciale m'a remis à main propre la liste des électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous avons réuni pendant notre déploiement, chaque membre de la plénière devait avoir une réunion avec le Conseil provincial des opérations, ce que nous appelons Conseil provincial de sécurité. Et chaque membre a eu à tenir cette réunion et aussi à fixer, que ce soit les candidats, que ce soit les membres du Conseil provincial des opérations, à fixer sur la conduite à tenir. Et là, ça dépend des uns et des autres pour que cette activité se déroule normalement et les dispositions sécuritaires sont déjà prises.
Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission Dialogue entre Congolais sur la fin hier mercredi 4 mai de la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces de la RDC en allant sur www.radiookapi.net. Et puis, 4e livraison de notre série de reportages sur les enjeux autour de la loi électorale. Dans ce numéro, nous abordons la problématique de l'interdiction de la suppléance par des membres de famille et du cumul de mandats. Au cours des élections de 2018, certaines personnalités politiques ont postulé à la fois comme députés nationaux, députés provinciaux et sénateurs. Après avoir été nommés ministres, ces derniers ont laissé leur mandat électif à leurs épouses, leurs enfants et frères. Le G13 dit vouloir moraliser la classe politique en interdisant ces cumuls de mandats et la suppléance par un membre de famille, alors que certains députés s'y opposent car, selon eux, cette disposition porte atteinte à l'article 13 de la Constitution. Michel Kifinangoy.
La proposition du G13 d'interdire aux candidats de désigner comme suppléants leurs membres de famille a le plus suscité la protestation de certains députés. Alphonse Ngoï Kasangi.
Si vous interdisez aux membres de famille d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? La Constitution dit dans l'article 13 qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un à raison de son appartenance familiale, etc.
Pour Jacques Joly, le mandat électif relève de l'intérêt public et ne devrait pas être légué aux membres des familles comme un héritage.
Nous ne pouvons pas installer une république mandocratique de type familial. Nous devons éviter de
transformer la République à une sorte de monarchie familiale, comme un droit privé sous couvert de suppléance.
André Claudel Loubaïa renchérit sur la nécessité d'interdire qu'une personne postule à plusieurs postes électifs.
Il n'est pas normal qu'un seul individu se porte candidat à la fois à l'élection législative nationale, mais aussi provinciale. C'est ça que nous voulons interdire pour ramener l'élection à un niveau le plus compétitif possible.
Pour le G13, cette disposition permettra à la RDC de moraliser la vie politique et d'accorder la chance à tout Congolais de briguer un mandat électif.
Alors, parlons de cette alerte lancée par la Dynamique pour une sortie de crise, DISOC, à l'endroit de la Cour constitutionnelle sur la proposition de la loi électorale. Dans une conférence de presse tenue hier mercredi ici à Kinshasa, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, président de ce mouvement politique, membre de la plateforme Elamouka, explique que cette proposition de loi est anticonstitutionnelle car elle a été faite par un groupe de 13 personnes qui ne sont pas revêtues de ce mandat. Par ailleurs, il réitère son appel aux parties prenantes au processus électoral à un consensus pour des élections apaisées en 2023. Jean-Pierre Lissanga Bunganga le dit à Paul Matendo.
La DISOC constate avec un profond regret que la proposition de loi tant décriée a été initiée par un groupe de 13 personnes dont certaines ne sont pas revêtues de la qualité de parlementaire. Cette modification n'ayant été initiée ni par un député ni par un sénateur, la DISOC alerte d'ores et déjà la Cour constitutionnelle sur son caractère non conforme à la Constitution, de sorte qu'en cas de saisine de la Haute Cour, cette dernière ne saurait y dérober. La DISOC réitère sa position en faveur d'un consensus entre toutes les parties prenantes au processus électoral pour doter le pays d'une loi électorale qui puisse garantir des élections crédibles en 2023.
On parle santé dans cette édition du journal. Aucun nouveau cas de la maladie à virus Ebola n'a été confirmé depuis le 1er mai à Mbandaka, a affirmé le docteur Amédé Djingwindé, chargé de bureau de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Il a dit à la conférence de presse des Nations unies de ce mercredi ici à Kinshasa, depuis la déclaration de cette 14e épidémie de la maladie en RDC, le 21 avril dernier, le cumul des cas est resté au 1er mai de 2 cas confirmés, une femme et un homme, tous décédés, a indiqué le docteur Djingwindé, assurant par ailleurs que l'épidémie était sous contrôle. Un extrait des propos du chargé de bureau de l'OMS, sélectionné par Honoré Missenga Kalala.
Nous avons actuellement, avec le travail remarquable qui a été fait par les chercheurs congolais, notamment l'INRB, nous avons la médication qui permet en tout cas d'assurer le traitement pour éviter que le malade puisse aller dans les complications. Deuxièmement, il y a la stratégie vaccinale avec le vaccin efficace qui est homologué, qui est également déployé sur le terrain. Et je peux vous assurer que déjà nous sommes à environ 63% de couverture de sujets contacts, environ 288 personnes qui sont vaccinés, aussi bien des contacts que des contacts des contacts, et également aussi le personnel de santé de première ligne pour éviter la propagation de la maladie. Toutes nos équipes travaillent en synergie avec l'ensemble de l'équipe provinciale du ministère de la Santé pour pouvoir endiguer ce phénomène qui pour le moment reste sous contrôle.
Et puis, cette mise au point sur la situation de la couverture vaccinale anti-Covid-19 en RDC. Le pays compte à ce jour 1 260 000 personnes vaccinées, soit une moyenne de 2,3% de la population. Il s'agit là de statistiques communiquées à la presse hier mercredi par le coordonnateur de la vaccination en RDC. Selon Alain Gachi, ces chiffres qui placent la RDC à la 20e place sur le plan africain sont appelés à croître d'ici 3 mois. Pour cela, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vient de développer un plan d'accélération dans le but de vacciner 11 millions de Congolais dans ce délai. Alain Gachi est au micro de Jean-Francis Mouya.
Aujourd'hui, on compte 1 260 000 personnes qui sont vaccinées en RDC. Et de cela, on a 771 000 qui sont complètement vaccinées. Donc, ça nous donne une moyenne de 2,3% de la population cible vaccinée avec au moins une dose et 1,5% de la population complètement vaccinée. Dans la région, nous sommes l'avant-dernier, il n'y a que le Burundi qui est derrière nous. Mais quand on regarde le progrès à partir du mois de janvier, on voit voit quand même qu'on a une tendance à l'accélération qui nous donne vraiment de l'espoir. C'est le meilleur moment de vacciner. Le ministère de la Santé vient de développer son plan d'accélération pour améliorer sur chacun de ces défis qu'on a eu dans le passé et accélérer la vaccination. L'objectif, c'est dans les 3 mois qui suivent de vacciner 11 millions de Congolais. C'est un objectif vraiment ambitieux qui ne peut pas se faire si on n'a pas la fédération de beaucoup d'ambassadeurs, surtout la presse.
Autre nouvelle, le gouverneur du Nord Kivu vient de clôturer sa mission de commandement et d'itinérance dans le territoire de Beni. La dernière étape de cette mission a conduit le lieutenant-général Constant Dima à Kasindi-Lubiria, une commune rurale du secteur de Rwenzori et frontalière avec l'Ouganda. Martial Papimukeba pour les détails.
À Kasindi-Lubiria, où le gouverneur du Nord Kivu était arrivé le lundi, il s'était adressé à la population. Les opérations militaires contre les ADF et les groupes armés locaux, ainsi que le développement de la province, étaient les 2 points développés par l'autorité provinciale. Le général Constant Dima s'était ensuite entretenu avec les chefs coutumiers, la société civile et les représentants de la FEC. C'était en présence du coordonnateur des opérations conjointes FRDC-UPDF et du commandant des opérations Sokola 1. La poursuite des opérations militaires contre les ADF était au centre de ces échanges. Le gouverneur du Nord Kivu avait profité de l'occasion pour appeler ses interlocuteurs d'apporter leur appui aux armées congolaises et ougandaises dans la mission de rétablissement de la sécurité dans les territoires de Beni. Signalons qu'avant Kasindi-Lubiria, le général Constant Dima a visité Mangina, Mangurujipa, Kamango, Nobili, Oicha, Eringeti et Bulongo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps au Kwil, où plus de 600 ex-militaires démobilisés, regroupés selon eux sur ordre du chef de l'État à la 11e région militaire garnison des Kikwit, se disent être abandonnés et rejetés par ces derniers. D'après le chef de troupe, l'ex-capitaine Daniel Moussassa, depuis qu'ils sont là, il y a de cela plus de 2 ans, ils vivent très difficilement parce qu'ils ne reçoivent ni salaire de l'État, ni ration, ni autre assistance du gouvernement. Il demande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de les réhabiliter dans l'armée et de ne plus les négliger, Irène Bouma.
Ils sont au total au nombre de 659 ex-militaires démobilisés, regroupés depuis le 6 janvier 2020 dans la ville de Kikwit, s'y rappelle du chef de l'État pour réintégrer l'armée, selon l'ex-capitaine Daniel Moussassa, chef des troupes. À l'en croire, ces Congolais venus de différents coins du pays sont abandonnés à leur triste sort à la 11e région militaire et vivent dans des conditions de pauvreté extrême sans aucune assistance de l'État congolais. Dans un mémorandum adressé mardi au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il lance un cri d'alarme lui demandant de les réhabiliter.
Nous totalisons 2 ans et quelques mois au regroupement sans nous assister, même à la ration, même au contrôle. Le président, il nous néglige. Nous souffrons beaucoup ici. Combien sont morts en ce regroupement? Le gouvernement nous a rejetés. On ne nous paye pas. On ne nous donne même pas des rations.
Pour sa part, le général Jonas Padiri, commandant de la 11e région militaire de Kikwit, indique que sa région militaire gère des militaires actifs et non les démobilisés. Et d'ajouter que pour le moment, il n'y a pas réintégration dans l'armée. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, et on continue notre série de reportages sur le Kasaï oriental. Cette province est desservie par 2 compagnies d'aviation. Il s'agit de Congo Airways, une compagnie nationale de la République démocratique du Congo, et CAA, la compagnie africaine d'aviation. Vu le nombre de voyageurs, ces 2 compagnies d'aviation sont très sollicitées et ne parviennent pas à satisfaire la clientèle. Les vols sont plusieurs fois annulés, les places limitées et les passagers presque abandonnés à leur triste sort externe dans la finale.
Voyager par avion à partir de Mbujimayi vers Kinshasa et Lubumbashi devient un exercice de longue haleine. Congo Airways, la compagnie nationale de la République, organise des vols sur Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi, Kinshasa 2 jours de la semaine. C'est depuis plus d'un mois que toutes les activités ont été suspendues sur le routing Mbujimayi, Kinshasa. D'après des données, Lukokwa, chef d'agence, le blocage a été décompté par son entreprise.
Il y a des bombardiers qui ne sont plus opérationnels. On était resté avec 2 Airbus 320. On avait envoyé un autre Airbus au Maroc et en Tchèque. Après un mois, l'Airbus est arrivé et il est opérationnel. On a repris le routing Kinshasa-Mbujimayi.
Cause de cette suspension de vol, la clientèle en pâtit. Témoignage de Julie Manyonga.
On a vraiment souffert. Il n'y a pas d'avion. Si on paye le billet, il n'y a pas moyen de récupérer encore l'argent. À cause du voyage, tu manques même comment faire tes business.
La compagnie MCAA a connu aussi des difficultés pour faire voyager ses clients. Michel Kayembe, chef d'escale, affirme que la situation s'améliore de plus en plus. Ces difficultés aveuglent les passagers au point où ils n'ont plus besoin de voyager en tout confort, mais plutôt d'avoir une place pour atteindre la destination.
Actualité internationale.
En Guinée, le procureur général a annoncé ce mercredi 4 mai de poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens membres de son gouvernement. Ils sont notamment accusés d'assassinat, actes de torture et enlèvement. Ces poursuites judiciaires visent essentiellement l'ex-président Alpha Condé, 13 anciens membres de son gouvernement et des hauts responsables administratifs et sécuritaires à des degrés divers. Parmi eux, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, les anciens ministres Dr Mohamed Diané et Alpha Ibrahima Keïra, pour ne citer que ceux plus influents. Certains d'entre eux sont en prison pour des faits présumés de corruption, de détournement des deniers publics et blanchiment. D'autres hauts responsables de l'appareil judiciaire et sécuritaire sont aussi visés par cette procédure.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Nathalie Mbumba Nzuzi, expert en finances publiques, magistrat financier de la Cour des comptes et auteur. Il s'exprime sur son ouvrage intitulé « Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre » publié en 3 tomes. Il estime que la RDC ne mérite pas le budget qui est le sien aujourd'hui. Nathalie Mbumba est interrogé par Alain Irung.
Nathalie Mbumba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre ? C'est parce que en réalité, les Congolais n'ont jamais produit eux-mêmes leur appareil de gestion de l'État qui respecte les principes de gestion des finances publiques. Voilà pourquoi je l'intitule comme cela, parce que je regarde l'aspect partant du Zaïre, qui, le mode de gestion, ne respectait pas les principes de finances publiques. Je vois encore la poursuite de la même situation avec le Congo démocratique, qui ne respecte pas les principes de finances publiques. C'est comme ça que j'ai dit, pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo Zaïre, c'est une façon de dire, faisons un effort. Tous ceux qui se considèrent comme détenteurs de la Congolité et détenteurs du Zaïrois, faisons un effort de construire ensemble un nouvel appareil de gestion de l'État. J'ai réalisé 3 tomes. Je pars premièrement de premier tome qui est le diagnostic des finances publiques depuis 1960. Là, je suis en train de présenter comment le pays n'a jamais été organisé selon les principes des finances publiques, selon la réalisation de l'intérêt général, selon la justice distributive du patrimoine collectif, selon la meilleure répartition du revenu national. Nous avons violé tous ces principes au profit de la réalisation de l'intérêt privé.
Vous parlez de 1960. Est-ce que cette tare est un héritage colonial ou simplement nos pères de l'indépendance ne savaient pas comment s'y prendre?
Je ne donnerai pas la faute à nos pères de l'indépendance parce qu'en réalité, il faut partir de l'époque de l'EIC, de l'État indépendant du Congo, 1885, où des pays occidentaux, l'interventionnisme des capitalismes dans le monde s'est imposé en Afrique pour partager les territoires. Et plus grave, si pour les autres, on a créé des colonisations, nous, on a créé l'entreprise privée du roi Léopold II. Vous comprenez déjà, quand on crée l'entreprise privée d'une personne comme un État, la conséquence est qu'aujourd'hui, tous nos dirigeants pensent que la République, les ressources de la République les revient à eux et qu'ils peuvent en consommer comme ils veulent au détriment du peuple. Ça prend son origine à partir de 1885.
Le péché originel.
C'est ça le péché originel que Lumumba n'a pas compris, que Kasavubu n'a pas compris, et même la génération actuelle n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi nous avons écrit cet ouvrage en 3 tomes pour leur présenter comment nous devons changer les choses. Le diagnostic est simple. Je pars d'abord de la publication de BAD.
Banque africaine de développement.
BAD a publié le budget des États où le Nigeria vient en premier lieu avec 581 milliards de dollars comme budget de l'État. Et la RDC se retrouve 50e pays sur les 52 avec un budget de 4 milliards. Alors quand moi je regarde ça, étant expert en finances publiques, j'ai dit non, mais ce budget, ce n'est pas vrai, c'est pas ça l'effectif de l'argent collecté par l'État congolais. L'État congolais collecte beaucoup d'argent, mais dont la magie du juridisme politique qui a été instituée depuis 1885 fait en sorte que on partage selon les intérêts les prélèvements effectués par l'État en les soustrayant du budget de l'État. Et d'où il faudra que nous puissions arriver à faire un effort de récupérer tout ce qui a été soustrait du budget de l'État, partant du principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général.
Et donc, en d'autres termes, l'État qui vole l'État.
Oui, nous sommes dans une situation où ceux qui dirigent l'État congolais se comportent toujours comme le roi Léopoldé le faisait.
Le deuxième tome, vous l'intitulez « Réforme des finances publiques qui s'impose », le troisième, relecture de la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011. Parlons des réformes des finances publiques qui s'imposent. Quelles sont ces réformes?
En réalité, la réforme des finances publiques qui s'impose, c'est de trois genres. La première réforme, c'est la réforme constitutionnelle. La Constitution ne respecte pas les principes des finances publiques. Et dans notre Constitution, il n'y a même pas les principes de l'interventionnisme du fisc au profit du trésor public. Et ça, c'est grave. Deuxièmement, c'est la réforme de la loi même de finances publiques. La troisième partie de la réforme, c'est pratiquement les lois sectorielles. C'est inconcevable qu'un ministère puisse être géré selon la volonté de celui qui vient au pouvoir. Non, c'est la loi qui doit fixer toutes les conditions d'organisation des gestions de l'État. Or, nos ministères n'ont pas de loi. Ce sont des secteurs économiques qui devaient avoir des lois organiques sectorielles, qui devaient montrer comment un ministre doit se comporter lorsqu'il gère.
Nathalie Sambumba-Nzouzi, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.